Pourquoi Pascal exerce-t-il encore aujourd'hui une véritable fascination? C'est une question un peu naïve, mais qu'on est en droit de se poser. Il a vécu au XVIIe siècle, dans la première moitié du XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIII. Il est mort en 1662, un tout petit peu avant ses 40 ans, à 39 ans. 1662, c'est le début du règne personnel de Louis XIV, donc il n'a quasiment jamais vécu sous l'autorité de Louis XIV. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est attiré, étonné par cet individu qui vivait la fin de sa vie dans un milieu qu'aujourd'hui on appelle janséniste, que eux auraient refusé d'appeler janséniste. Alors un bon témoignage de cette fascination, c'est la phrase, c'est le passage très célèbre de Chateaubriand dans Le génie du christianisme, donc au tout début du 19e, après la Révolution, 1802. On a ces quelques lignes qui ont frappé la postérité, qui sont très souvent citées à propos de Pascal. Donc c'est Chateaubriand qui parle de cet homme qui a 12 ans, avec des barres et des ronds, avait créé les mathématiques, qui à 16 ans avait fait le plus savant traité des coniques qu'on eût vu depuis l'Antiquité, qui à 19 ans réduisit en machine une science qui existe tout entière dans l'entendement, qui à 23 démontra les phénomènes de la pesanteur de l'air et détruisit une des grandes erreurs de l'ancienne physique, qui à cet âge où les autres hommes commencent à peine de naître, ayant achevé de parcourir le cercle des sciences humaines, s'aperçut de leur néant et tourna toutes ses pensées vers la religion, qui depuis ce moment jusqu'à sa mort, arrivé dans sa 39e année, toujours infirme et souffrant, fixa la langue qu'on parlait Bossuet et Racine, donna le modèle de la plus parfaite plaisanterie comme du raisonnement le plus fort, enfin, qui dans les courts intervalles de ses mots, résolut, en se privant de tout secours, un des plus hauts problèmes de géométrie, et jeta au hasard sur le papier des pensées qui tiennent autant du Dieu que de l'homme. Cet effrayant génie se nommait Blaise Pascal. C'est la dernière formule qu'on a retenue. J'ai voulu lire le texte en entier parce que je trouve que c'est un bon résumé cavalier de la carrière de Pascal. Donc Pascal, effrayant génie. Ce qu'on entend dans ce texte de Chateaubriand, c'est à la fois la place des inventions. Il a inventé de tous côtés. Il a inventé dans le domaine des sciences, il a inventé dans le domaine des lettres, il a donné le modèle de la plaisanterie, c'est une allusion au provincial. Donc l'invention, la polyvalence, quelqu'un qui a touché à beaucoup de domaines qui a priori n'avaient pas de raison d'être abordés par le même homme, donc qui a fixé la langue parlée par Bossuet, qui a démontré la pesanteur de l'air, qui a créé les mathématiques, je vais y revenir. Évidemment, c'est faux. Et puis, dernier point que fait entendre Chateaubriand, que je trouve savoureux, c'est l'effroi, cet effrayant génie. Pascal nous impressionne, nous attire et nous effraie à la fois, pour des raisons diverses et sans doute pour des raisons fausses. Et on a là, avec ce texte de Chateaubriand, l'image du Pascal romantique qui s'est quand même assez bien installée dans les mémoires. On pourrait prendre une autre image de Pascal, qui est celle laissée par sa sœur Gilberte dans une vie de Pascal, qui est une vie hagiographique, mais pleine d'informations intéressantes. Et juste une toute petite citation de cette vie. Gilberte, donc la sœur aînée de Pascal, écrit: Il avait une éloquence naturelle qui lui donnait une facilité merveilleuse à dire ce qu'il voulait. Mais il avait ajouté à cela des règles dont on ne s'était point encore avisé, et dont il se servait si avantageusement qu'il était maître de son style, en sorte que non seulement il disait tout ce qu'il voulait, mais il le disait en la manière qu'il voulait, et son discours faisait l'effet qu'il s'était proposé. Je crois qu'avec ces deux textes, on a une espèce de résumé, de synthèse de la fascination exercée par Pascal dès son époque. Quelqu'un qui avait une puissance dialectique et rhétorique dont ses amis, sa famille, étaient ahuris. Et on comprend d'ailleurs qu'au moment de sa mort, donc sa mort prématurée, à 39 ans, les amis de Pascal, ses familiers, se soit précipité sur sa table de travail en se disant qu'on va trouver un livre extraordinaire, en gestation, peut-être proche de sa conclusion, et qui serait une sorte d'arme ultime pour défendre la religion. Et sur cette table de travail, on a trouvé des brouillons informes, à peu près inexploitables, et les descendants de Pascal ont été 8 ans avant de décider quoi en faire, pensant d'abord qu'ils n'en feraient rien du tout, et puis finalement, pressés par leur entourage, et conscients vaguement de la puissance de ces textes, décidés d'en sélectionner quelques-uns, qu'ils ont publiés sous ce titre qui est resté, alors titre très long, Pensées de Monsieur Pascal sur la religion et quelques autres sujets qui ont été trouvés après sa mort parmi ses papiers. Donc ce titre qu'on a réduit, nous, à Pensées de Pascal, qui ne sont rien d'autre que des notes, des brouillons sur des sujets épars. Voilà, pour faire un premier tour d'horizon. La première chose qu'il me semble nécessaire de souligner pour ce portrait de Pascal, eh bien, c'est son statut de scientifique. C'est d'abord un scientifique, quelqu'un qui s'intéressait aux sciences, qui s'intéressait tellement aux sciences que son père en avait été inquiet et qu'il avait décidé de l'écarter des sciences le temps qu'il passe par un certain nombre de corvées culturelles, l'apprentissage des langues, le latin, un certain nombre d'humanités. Donc, l'anecdote est connue, elle fait partie de la légende pascalienne, une légende véritable. Le père, Étienne Pascal, qui était mathématicien, avait tenu à l'écart son fils de toutes les questions mathématiques qu'il traitait lui-même avec ses amis dans une académie de mathématiques, l'académie Mersenne, l'académie Le Pailleur. Et le petit Pascal, le jeune Pascal, s'était trouvé à faire ce qu'écrit Chateaubriand, à créer les mathématiques à 12 ans, avec des barres et des ronds, c'est-à-dire à essayer de reformuler lui-même les bases d'un raisonnement mathématique. Et son père le trouve un jour dans sa chambre en train d'exprimer ce que l'on connaît comme la 32e proposition d'Euclide. Ça ne veut pas dire qu'il ait lui-même mis en place les 32 premières propositions d'Euclide. C'est qu'il était en train de définir d'exprimer cette proposition. Et donc, cet appétit pour les maths, les mathématiques, cet appétit pour la science était tel que son père a cédé et a laissé le jeune enfant se tourner vers sa vocation. Donc, sa vocation qui était une vocation scientifique. Passons rapidement en revue, la chose est connue, il faut la rappeler quand même, les apports de Pascal, Blaise Pascal, aux mathématiques et aux sciences. Donc, sa première publication, c'est un essai pour les coniques, une partie des mathématiques très développées dans l'Antiquité, qui restait encore à l'époque de Pascal comme un élément des mathématiques essentiel, et où l'on voit, dans le travail de Pascal, son appétit de synthèse, de découverte des principes uniques sous la diversité. Mais après les coniques, ce qui a été pour Pascal le plus grand titre de gloire à son époque, c'est la machine d'arithmétique. Une machine capable de faire les 4 opérations principales, donc essentiellement l'addition et la soustraction, avec quelques manipulations, les 2 autres opérations. Donc une machine qui a beaucoup impressionné son époque parce que l'informatique n'existait pas, évidemment, et que l'idée qu'un mécanisme puisse se charger d'opérations qui paraissaient réservées à l'homme, c'est quelque chose qui a troublé énormément les contemporains de Pascal. Dans cette histoire de la machine d'arithmétique, on l'appelait la machine d'arithmétique à l'époque de son créateur, ce qui est peut-être nécessaire de souligner, c'est la préoccupation concrète et commerciale même de Pascal. Donc c'est un élément peut-être qui est moins souvent souligné à propos de ce personnage, c'est que non seulement il invente des choses, mais il se soucie de l'exploitation de ses inventions, tant de l'exploitation concrète, technique, de ce point de vue-là, il a une préoccupation de technicien que de l'exploitation économique et commerciale. Donc, dans le cas de la machine arithmétique, un de ses grands problèmes, ça a été de disposer les rouages de telle manière que l'opérateur puisse utiliser la machine horizontalement, comme s'il était en train d'écrire lui-même sur une table. Car c'était assez simple de faire fonctionner cette machine avec les mécanismes que Pascal avait inventés si on maintenait le tableau d'inscription vertical. Par contre, c'était extrêmement désagréable pour l'usage. Donc, un intérêt de Pascal pour l'exploitation technique de la machine, et puis un intérêt aussi pour son exploitation économique. Il la dédicace au chancelier Séguier, il l'envoie à la reine Christine de Suède, il essaye de la rendre solide, de faire en sorte qu'elle puisse voyager. Et donc, on a déjà le Pascal que l'on trouvera quelques mois avant sa mort, le Pascal mettant en place un système de transport en commun à Paris, à prix fixe, les carrosses à 5 sols. Donc quelqu'un qui n'est pas du tout déconnecté de la cité, pour qui la science n'est pas une opération purement abstraite. Mais si je continue avec les grands apports de Pascal, il y en a deux qu'il faut, des apports scientifiques, il y en a deux qu'il faut souligner en priorité, c'est les expériences touchant le vide qui permettent à Pascal de donner des preuves supplémentaires, ce que croyaient les savants de son époque, mais qui n'étaient pas encore véritablement établis, à savoir la pesanteur de la masse de l'air, et surtout, dans une idée qui s'est trouvée absolument géniale, refaire l'expérience de Torricelli, c'est-à-dire l'expérience de ce que nous appelons aujourd'hui l'expérience du baromètre, la faire à différentes altitudes, et voir qu'à des altitudes différentes, la colonne de mercure ne réagissait pas de la même manière. Donc, le texte de Chateaubriand que je citais parle de démontrer les phénomènes de la pesanteur de l'air, détruire une des plus grandes erreurs de l'ancienne physique. Alors, une de ces plus grandes erreurs de l'ancienne physique, c'était que la nature avait horreur du vide et qu'un certain nombre de phénomènes étaient produits par les efforts de la nature pour empêcher une situation qui aurait été contraire à tous ses principes, à savoir la création de vide. Pascal, à l'image de son époque, naissance du mécanisme, explique ces phénomènes par d'autres raisons qui sont le poids de la masse de l'air qui vient contrebalancer le poids du mercure. Mais ce qui est frappant aussi ici, c'est la place de l'expérience. C'est en procédant à des expériences que Pascal remet en cause les autorités. Deux choses encore pour finir avec cette ouverture scientifique de la vie de Pascal. Première chose, mais à la correspondance avec Fermat, avec le grand mathématicien de Toulouse, sur la règle des parties, j'y reviendrai tout à l'heure, qui est la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui les probabilités, que Pascal ne voulait pas appeler les probabilités, car c'était un terme de théologie en plus qui pouvait évoquer la compagnie de Jésus et les molinistes, et que lui appelle la règle des parties, TIS, et qu'il intitule dans une dédicace à l'Académie parisienne de mathématiques, l'Académie Le Pailleur, qu'il intitule d'un nom qui le rend absolument enthousiaste. Alors, c'est un texte en latin, il parle de la geometria aleae, la géométrie du hasard. Arriver avec un phénomène qui est totalement non déterministe, le hasard, à imposer un ordre géométrique. Et là, on voit bien, dans cette correspondance extraordinaire de Pascal et de Fermat, on voit bien la préoccupation de celui qui cherche à savoir exactement quelles sont les bornes de la raison et à faire entrer la raison le plus loin possible dans l'observation et l'analyse des mécanismes humains. Le dernier moment scientifique de Pascal, alors que son entourage s'imagine qu'il a arrêté tout intérêt, qu'il en a arrêté avec tout intérêt pour les sciences, Et la légende après accréditera ou tentera d'accréditer cette idée, eh bien, c'est le concours mathématique que Pascal lance 4 ans avant sa mort, en 1658, sur une courbe qui intéressait les mathématiciens, la cycloïde, qu'on appelait à l'époque la roulette, c'est-à-dire un point d'une roue qui se déplace sur un plan. Et donc Pascal a proposé un certain nombre de difficultés mathématiques qu'il était capable de résoudre et qu'il a soumises à l'intelligence de ses collègues mathématiciens, marque aussi d'un sentiment de supériorité qui était le sien, et puis désir d'exploiter cette supériorité pour en acquérir une certaine autorité philosophique ou scientifique. Voilà, donc ce Pascal scientifique, attiré par les sciences, qui a laissé à l'histoire des sciences un certain nombre de belles découvertes, avait été élevé par son père, c'est ce que dit Gilberte, selon une maxime qu'il n'avait jamais remise en cause. Et je me réfère encore à la vie de Pascal par sa sœur Gilberte. Donc le père de Pascal, Étienne, lui avait inspiré, dit Gilberte, dès l'enfance, un très grand respect pour la religion, lui donnant pour maxime que tout ce qui est l'objet de la foi ne saurait l'être de la raison. Et dans le même texte, on lit un peu plus loin que Pascal, malgré son intérêt marqué et même dominant pendant assez longtemps pour les questions scientifiques, s'était toujours écarté de ce faux principe qui régnait chez certaines personnes de son entourage, faux principe, je cite Gilberte Pascal, que la raison humaine est au-dessus de toute chose. Donc, ce qui est très frappant d'emblée, y compris dans la période qu'on pourrait appeler purement scientifique de Pascal, c'est ce sentiment que la raison est limitée, qu'elle n'est pas au-dessus de toute chose, et que, par exemple, les questions relevant de la foi ne peuvent être traitées par la raison. Donc, c'est probablement la première chose à mettre en relief sur la carrière intellectuelle de Pascal, c'est non seulement cette bivalence qui fera de lui un philosophe, pourrait presque dire un théologien, tout en même temps qu'un scientifique, et en même temps le sentiment que les deux domaines ne peuvent pas empiéter l'un sur l'autre. On pourrait imaginer qu'une telle maxime le conduit vers le fidéisme, ou le conduit vers deux existences parallèles qui ne se rencontrent jamais. Le mathématicien, le scientifique fait des sciences, et le croyant va à la messe. Lit des textes religieux, se met à genoux, prend de l'eau bénite. Or, on voit bien, et j'essaierai de le montrer un petit peu plus longuement, que ça n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Pascal est passionné par l'idée de la frontière de la raison. Quand est-ce que la raison doit s'arrêter? Et c'est un des éléments centraux de son œuvre, et qui est probablement qui la rend pour nous extrêmement contemporaine, qui fait que malgré les 350 ans qui nous séparent de lui, on a toujours envie de lui poser la question, à partir de quel moment et pour quelle raison la raison elle-même déclare qu'elle est invalide. Et donc je parlais tout à l'heure de la règle des parties, de la correspondance avec Fermat. On voit bien que là, c'est une question qui est purement spéculative, purement scientifique. C'est trouver ce que Pascal appelle, hein, dans une formule qui est difficile à comprendre, qu'il appelle la compositio aleae, la composition du hasard dans les jeux qui lui sont soumis. C'est toujours dans le texte l'adresse à l'Académie parisienne. Et donc, ce qui intéresse Pascal, c'est de pousser la raison le plus loin possible. Donc, il est ravi de montrer que même les phénomènes aléatoires peuvent être régis ou peuvent être représentés, peuvent être analysés rationnellement, pour qu'il y ait un moment où la raison s'arrête quand elle décide elle-même qu'elle s'arrête. C'est un des grands thèmes des pensées de Pascal, et un chapitre, une liasse qui s'intitule Soumission et usage de la raison. Alors comment ce savant, cet obsédé des sciences, qui en a fait depuis son plus jeune âge et contre l'avis même de son entourage, comment s'est-il trouvé devenir un des grands moralistes, un des grands écrivains du XVIIe siècle, et Aujourd'hui, les spécialistes de son œuvre n'hésiteraient pas à le dire, même un théologien. L'auteur décrit sur la grâce, qui sont des textes en chantier, mais qui sont des textes d'une puissance de réflexion théologique immense. Eh bien, la chose s'est faite de façon un peu aléatoire, de façon inattendue. La vie de Pascal, de sa famille, sa plus jeune sœur, Jacqueline, par exemple, avait été amenée vers Port-Royal. Donc la vie de la famille s'était rapprochée de Port-Royal, Port-Royal de Paris, Port-Royal des Champs, les deux grands lieux à l'époque, de ce que les ennemis appellent le jansénisme et de ce que les amis considéraient comme des lieux de spiritualité autour d'un monastère de cisterciennes et des lieux de grande conviction augustinienne. Donc Pascal s'est trouvé, par un certain nombre de rencontres, qu'il est tout à fait intéressant, mais qu'il serait trop long d'analyser ici, Pascal s'est trouvé rapproché de Port-Royal, au moment même où la persécution s'abattait sur le monastère, sur les solitaires, sur les théologiens, et sur le principal d'entre eux, Antoine Arnauld, que ses ennemis cherchaient à expulser de Sorbonne, de la faculté de théologie de l'Université de Paris. Et dans l'histoire des provinciales, de ces 18 lettres qu'on appelait au XVIIe les petites lettres, dans l'histoire des provinciales qui est racontée par Pierre Nicole, un des solitaires de Port-Royal, on lit une sorte de narration assez savoureuse que je cite maintenant. Un jour que Montalt, alors Montalt c'est le nom qui avait été pris, le pseudonyme qui avait été choisi par Pascal pour signer les provinciales. Un jour que Montalt s'entretenait à son ordinaire avec quelques amis particuliers, on parla par hasard de la peine que ces personnes avaient, de ce qu'on imposait ainsi à ceux qui n'étaient pas capables de juger de ces disputes. Le problème, les gens de Port-Royal sont désemparés. On mène contre eux un faux procès. Le pouvoir, pour des raisons diverses, certaines bonnes, certaines beaucoup moins bonnes, a décidé d'en finir avec Port-Royal. Toute la puissance des jésuites, confesseurs du roi, animateurs du plus grand réseau scolaire de l'époque, des collèges, hein, tout le pouvoir des jésuites s'exerce contre Port-Royal. Que reste-t-il à cette poignée d'hommes, de savants, de religieux, d'écrire des textes, mais ces textes ne servent à rien? Donc, on fait croire à l'opinion publique qu'une grande hérésie est en train de se développer. Eux sont absolument convaincus qu'il n'en est rien, que c'est simplement la cause de Saint-Augustin qui est défendue par un certain nombre de théologiens de leur entourage, et ils n'arrivent pas à faire passer cette idée. On voudrait prouver qu'il y a de la tromperie, qu'il y a de la manipulation, qu'il y a coup de force insupportable, qu'il y a de la tyrannie, mais on ne sait pas comment le faire. Et je reprends la citation de Pierre Nicole. Alors, Montalt, qui n'avait encore presque rien écrit et qui ne connaissait pas combien il était capable de réussir dans ces sortes d'ouvrages, dit qu'il concevait à la vérité comment on pourrait faire ce factum, ce petit texte, ce petit résumé de la dispute qu'ils aimeraient bien faire connaître à l'opinion publique. Bon, Pascal, donc, concevait à la vérité comment on pourrait faire ce factum, mais que tout ce qu'il pouvait promettre était d'en ébaucher un projet, en attendant qu'il se trouvât quelqu'un qui pût le polir et le mettre en état de paraître. J'aime beaucoup ce texte, parce qu'il me semble qu'on voit là la naissance de l'écrivain. Pascal est un jeune homme, considéré par les gens de Port-Royal comme un ami, une personne brillante, mais totalement latérale par rapport à leurs préoccupations. Donc il assiste à la conversation, il comprend bien le problème rhétorique et le problème philosophique, problème sociologique qui se pose à Port-Royal. Il dit « J'ai une petite idée de comment il faudrait prendre les choses. Je peux vous proposer une ébauche. » Et cette ébauche, c'est la première provinciale. la première provinciale qui n'était pas du tout destinée à être prolongée par 17 autres textes, puisque les provinciales arriveront au nombre de 18. 18 lettres anonymes, brèves, drôles, piquantes, qui sont sans doute le plus gros tirage de tous les textes du XVIIe siècle. C'est assez difficile à savoir, puisqu'en plus c'était de la littérature clandestine qui a été diffusée de manière clandestine. Mais donc les études tout à fait poussées sur les caractéristiques de chaque tirage permettent aujourd'hui aux spécialistes de connaître à peu près les volumes de ces lettres, et ce sont des volumes impressionnants pour le XVIIe siècle. Alors, ces provinciales ont été conçues par Pascal conformément à l'homme de science qu'il était et au logicien. C'est-à-dire que dans un premier temps, les premières provinciales parlent de jeu avec les mots, en même temps de manière dont un pouvoir oppressif utilise de manière frauduleuse les mots pour être capable d'arriver à ses fins. Je ne prendrai qu'un exemple, l'exemple de la première provinciale. L'exemple de la première provinciale tourne autour d'une notion philosophico-théologique, d'une notion intéressante, celle de pouvoir prochain. Qu'est-ce que c'est qu'avoir le pouvoir prochain de faire quelque chose ? Voilà. C'est-à-dire le pouvoir entièrement à notre disposition. On a tous le pouvoir de faire des tas de choses que l'on peut théoriquement faire et que l'on ne peut pratiquement pas faire. Donc on a un pouvoir éloigné, mais non pas un pouvoir prochain. Or, cette notion de pouvoir prochain est utilisée dans les polémiques autour de la grâce qui se développent dans ces années-là, on est en 1656, cette notion de pouvoir prochain est utilisée par des prétendus augustiniens et des anti-augustiniens pour constituer un seul et même groupe supérieur en nombre. Et ce que Pascal veut montrer dans la provinciale, qui porte le numéro 1, dans la première, c'est comment on joue avec les mots pour essayer de masquer le réel. À la fin de la lettre, je crois qu'il faut lire, hein, c'est un texte de salubrité publique, c'est un texte d'hygiène intellectuelle. Même si l'on n'est pas attiré par les débats sur la grâce du XVIIe siècle, je crois qu'on est tous concernés par la manière dont les mots sont utilisés frauduleusement. Il faut bien la voir comme une sorte de mode d'emploi du discours. À la fin de la première provinciale, un des protagonistes, s'adressant à ses amis, « Voulez-vous donc recommencer nos brouilleries ? Ne sommes-nous pas demeurés d'accord de ne point expliquer ce mot de prochain et de le dire de part et d'autre sans dire ce qu'il signifie ? » C'est-à-dire que deux camps, théoriquement opposés et qui ont décidé pour des raisons politiques de se rassembler, choisissent un terme qu'ils ne comprennent pas de la même manière et décident de l'utiliser ensemble pour pouvoir faire du nombre et avoir raison du groupe de Port-Royal. C'est ce sujet de la première provinciale qui nous montre que les provinciales commencent d'une manière logique, spéculative, beaucoup plus que théologique. Il s'agit de montrer que cette polémique est une fausse polémique, que derrière, il y a de la politique. Il y a de la politique et aussi il y a de l'intimidation, puisqu'une des grandes idées de Pascal dans les provinciales, c'est de prendre à témoin l'opinion publique en français, dans des textes courts, dans des textes drôles, pour dire aux honnêtes gens, faites-vous une idée par vous-même, essayez de comprendre. On vous dit que les spécialistes vous expliquent qu'ils ont la chose en main et que vous-même, c'est trop compliqué pour vous. Or, faisons une enquête. Tournons-nous vers les protagonistes, essayons de comprendre et voyons ce que nous comprendrons. Donc c'est un texte qu'on a pu considérer comme une sorte de précurseur du journalisme d'investigation, en tout cas qui se donne avec un certain nombre de réflexes qui sont ceux du journalisme d'investigation. Nous étions bien abusés. On cherchait à nous faire croire des choses qui n'étaient pas. C'est le début de la première provinciale. Alors, première idée centrale qui nous aide à comprendre comment ce mathématicien, ce scientifique, va être conduit dans un domaine qui n'était pas a priori le sien. Et deuxième chose qui me paraît absolument capitale, à l'autre bout des provinciales, une question qui est une question cruciale pour Pascal, c'est la place de la réalité face à l'idéologie, face au pouvoir. Provinciales sont une magnifique méditation sur les tricheries du pouvoir. Et une des dernières tricheries contre lesquelles, enfin, auxquelles Pascal est confronté à la fin des provinciales, c'est la signature du formulaire. Je passe très rapidement, je résume très vite cette question qui est complexe. Cinq propositions, donc propositions c'est-à-dire thèses, hein, avaient été extraites de l'ouvrage de Jean Sénius consacré à Saint-Augustin, et ces cinq propositions avaient été déclarées hérétiques. Les théologiens de Port-Royal, les gens de Port-Royal étaient prêts à croire qu'elles soient hérétiques, en tout cas à accepter l'autorité du pape qui leur disait qu'elles étaient hérétiques, mais ils auraient aimé savoir deux choses. Quelle était exactement la différence entre ces propositions hérétiques et les thèses de Saint-Augustin particulièrement catholiques, première chose. Et deuxième chose, ils auraient aimé qu'on leur dise exactement où Jean Sénius tenait ces propositions qui étaient qualifiées d'hérétiques. À cela, les autorités ecclésiastiques, tant françaises que romaines, répondent « C'est nous qui avons l'autorité, c'est nous qui définissons l'orthodoxie d'une position religieuse, et si vous êtes de bons catholiques, vous acceptez, vous adhérez, ou alors vous cessez d'être des catholiques. » Jusque-là, Pascal est d'accord. Mais il y a un point auquel il ne peut pas souscrire, c'est que l'autorité religieuse excède son domaine pour imposer des croyances qui ne sont absolument plus de sa compétence. Alors là, ça a l'air d'être de sa compétence, parce que c'est de la théologie, mais ça n'est pas de sa compétence. Savoir si une proposition est ou n'est pas dans un livre, ça demande qu'on le lise, qu'on le travaille. Certes, c'est un gros livre, certes, il est écrit en latin, mais enfin, tout le monde peut le lire, le considérer, l'étudier. Et Pascal met cette question en rapport avec l'affaire Galilée, qui est en train de se produire exactement au même moment, la condamnation de Galilée. Et le texte est passionnant parce que la condamnation de Galilée est une des grandes tâches intellectuelles qui pèsent sur l'Église catholique. Aujourd'hui, c'est un des arguments qui est répété ad nauseam pour nous expliquer que l'Église catholique est toujours prête à lutter contre la science, contre l'intelligence, contre l'innovation. Voilà, ça reste un argument, même si la question de l'affaire Galilée est très complexe et le rôle du pape a été très ambigu et son désir de condamner n'était pas si marqué que cela. Il s'est passé quand même quelque chose pour Pascal d'absolument terrible, d'absolument atroce, qui pour lui est la même chose que le formulaire. Donc je n'ai pas expliqué ce qu'était ce formulaire, et le parallélisme va rendre les choses tout à fait claires. Le formulaire, c'était l'imposition que dans ces années-là, 1656-1657, on avait faite à tous les clercs, toutes les personnes qui avaient une responsabilité d'enseignement, d'encadrement intellectuel, d'encadrement pastoral, l'obligation qui leur était faite de signer un acte les engageant comme quoi ils acceptaient de croire que les cinq propositions étaient bien présentes dans le livre de Jean Sénius. Un petit peu de la même manière qu'on impose à Galilée de se rétracter pour dire que la Terre ne tourne pas autour du Soleil. Alors, que se passe-t-il pour Pascal ? Il se passe ici une confusion intolérable et doublement intolérable. Intolérable du point de vue de la science, c'est évident pour tout le monde aujourd'hui, mais ce qui est plus intéressant pour Pascal, en tout cas pour nous de ce point de vue-là, c'est que c'est intolérable du point de vue de la foi. C'est-à-dire que ce qui est en train d'abîmer la science est en train de faire beaucoup plus de mal à la foi. Et là, je citerai le passage de la dernière provinciale, la 18e, hein, sur l'affaire Galilée. Je prends les choses d'un petit peu plus loin et je citerai le passage consacré à Galilée dans quelques instants. Pascal s'adresse dans cette 18e lettre, s'adresse au père Anna, confesseur du roi et personnalité chez les jésuites. D'où apprendrons-nous donc la vérité des faits ? Ce sera des yeux, mon père, qui en sont les légitimes juges, comme la raison l'est des choses naturelles et intelligibles, et la foi des choses surnaturelles et révélées. Voilà. Tant s'en faut que la foi détruise la certitude des sens, que ce serait au contraire détruire la foi que de vouloir révoquer en doute le rapport fidèle des sens. Donc, conduire pour des raisons de foi des croyants à aller à l'encontre du réel, à détruire des analyses fondées, c'est non seulement les conduire à affirmer des inepties, mais c'est les amener à détruire la foi elle-même. Et Pascal continue, je saute quelques passages de cette lettre, mais là aussi il faudrait tout lire. Toutes les puissances du monde ne peuvent par autorité persuader un point de fait, non plus que le changer, car il n'y a rien qui puisse faire que ce qui est ne soit pas. Cette formule qui paraît un truisme me semble au contraire d'une profondeur caractéristique de Pascal. Et ça va guider le reste de son œuvre. Je relis le texte. Toutes les puissances du monde ne peuvent par autorité persuader un point de fait, non plus que le changer, car il n'y a rien qui puisse faire que ce qui est ne soit pas. On va en voir les conséquences dans quelques instants. Et après, Pascal enchaîne sur l'affaire Galilée. « Ce fut en vain que vous obtîntes contre Galilée ce décret de Rome qui condamnait son opinion touchant le mouvement de la terre. Ce ne sera pas cela qui prouvera qu'elle demeure en repos. Et si l'on avait des observations constantes qui prouvassent que c'est elle qui tourne, tous les hommes ensemble ne l'empêcheraient pas de tourner, et ne s'empêcheraient pas de tourner aussi avec elle. » Une sorte de jubilation moqueuse de Pascal, en disant « Vous pouvez bien dire ce que vous voulez, vous pouvez bien exercer l'autorité que vous voulez, le réel aura raison sur vous. » Et pour Pascal, défendre, comme il va bientôt le faire, défendre la foi chrétienne, c'est défendre le réel. Et que la défense de l'un n'aille pas de pair avec la défense de l'autre, c'est-à-dire que le réel se trouve en opposition avec la foi, serait pour lui quelque chose de désastreux, quelque chose d'inacceptable. Donc les provinciales ont été pour Pascal un moment de glissement, de prise de conscience, alors de prise de conscience de plusieurs choses, d'abord de prise de conscience de ses compétences rhétoriques et philosophiques, dont il n'avait pas forcément totalement conscience au départ, mais aussi d'un certain nombre de mécanismes a priori extraordinairement déplaisants pour un scientifique, pour le scientifique qu'il était. Le premier de ces mécanismes, j'en parlais un petit peu, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est la facilité de son entourage à congédier le réel, ce que nous on appellerait aujourd'hui l'idéologie, faire prévaloir l'idéologie sur le réel. Et puis, autre chose qui a probablement été le choc fondateur pour le scientifique brillant qu'il était, c'est la découverte de l'infirmité de la démonstration. Il pouvait penser que des bons arguments, correctement exploités, avec une méthode telle que Descartes l'avait promue à son époque, conduisait naturellement à une vérité partagée, entre des personnes qui avaient les capacités de raisonner correctement. Qu'est-ce qu'il voit avec les provinciales ? Que les choses se passent tout à fait différemment. Il voit que la démonstration ne fonctionne pas, que la mauvaise foi est centrale, enfin que la politique l'emporte sur la raison. Politique, entendons-nous, dans un sens très très, très large hein, dans le cadre des provinciales. Et le texte qu'il faudrait citer, qui est peut-être, c'est pas très malin de dire des choses pareilles, mais qui est peut-être un des plus beaux textes de Pascal, enfin, un des textes les plus bouleversants qu'il ait écrit, c'est la péroraison de la 12e provinciale. Et celui-là, il faut absolument l'entendre. C'est un texte où Pascal prend conscience de l'inanité de son travail. Il voit bien que tous les raisonnements qu'il met en place ne vont pas faire progresser la cause de Port-Royal, que Port-Royal finira en butte à la violence du pouvoir. Et c'est en effet ce qui se passera après la mort de Pascal, au début du XVIIIe siècle. Port-Royal sera réduit à son implantation de la vallée de Chevreuse, et puis après, détruite, l'église rasée, le cimetière excavé et les ossements enlevés. Donc cette violence l'emportera. Il y aurait deux manières de prendre les choses. Il pourrait y avoir une sorte d'exaspération, de fureur de la part du scientifique, du savant, qui dit « mais c'est pas possible, on fait des arguments justes, on déploie des démonstrations et les autres ne veulent pas les entendre ». Or, ce que Pascal comprend, c'est que c'est sans doute pas comme ça que fonctionne l'homme, que la démonstration n'est pas ce qui attire la conviction. Et donc, il se trouve dans une situation, je vais lire la fin de ma 12e provinciale, on se trouve dans une situation qui est une situation absurde, une situation où la justice et la force se trouvent opposées sans pouvoir agir l'une sur l'autre. Et à la conclusion de cette lettre, Pascal, qui se rend compte, il en écrira encore 6 après, hein, mais qui se rend compte que les provinciales n'obtiendront pas le but pour lequel elles avaient été conçues, s'exprime de la façon suivante. Il parle, c'est une lettre ouverte à l'ensemble des pères de la Compagnie de Jésus. « Je vous plains, mes pères, d'avoir recours à de tels remèdes. » Il s'agissait de la calomnie. « Les injures que vous me dites n'éclairciront pas nos différends, et les menaces que vous me faites en tant de façons ne m'empêcheront pas de me défendre. Vous croyez avoir la force et l'impunité, mais je crois avoir la vérité et l'innocence. » Voilà la situation. La force est d'un côté, et de l'autre, un parti qui s'imagine, évidemment, Pascal est suffisamment conscient pour se rendre compte que cette idée n'est pas partagée, mais enfin, qui pense avoir pour lui la vérité et l'innocence. Et voilà le passage extraordinaire. « C'est une étrange et longue guerre que celle où la violence essaye d'opprimer la vérité. Tous les efforts de la violence ne peuvent affaiblir la vérité et ne servent qu'à la relever davantage. Toutes les lumières de la vérité ne peuvent rien pour arrêter la violence et ne font que l'irriter encore plus. Quand la force combat la force, la plus puissante détruit la moindre. Quand l'on oppose les discours aux discours, ceux qui sont véritables et convaincants confondent tes disciples, ceux qui n'ont que la vanité et le mensonge. Mais la violence et la vérité ne peuvent rien l'une sur l'autre. Qu'on ne prétende pas de là néanmoins que les choses soient égales, car il y a cette extrême différence que la violence n'a qu'un cours borné par l'ordre de Dieu, qui en conduit les effets à la gloire de la vérité qu'elle attaque, au lieu que la vérité subsiste éternellement et triomphe enfin de ses ennemis, parce qu'elle est éternelle et puissante comme Dieu même. » Les dernières phrases sont celles d'un croyant convaincu que, à la fin des temps, l'ordre de Dieu l'emportera. Mais avant ces dernières phrases, il y a la constatation, qui est probablement le plus grand apport des provinciales pour Pascal, la constatation d'une lutte impossible entre la force, entre la violence et la vérité. Deux forces peuvent s'opposer l'une à l'autre. Deux vérités, ou deux prétendues vérités, peuvent s'opposer l'une à l'autre. Et à l'issue du choc, l'une des deux, une force, une vérité, l'emportera. Mais la violence et la vérité ne peuvent rien l'une sur l'autre. Et cette découverte que Pascal fait au moment des provinciales va sans doute être un fil directeur de ce qu'il nous laisse après dans les pensées. Et de ce qu'on appellera, d'un terme dont je vais expliquer le caractère insatisfaisant, de ce qu'on appellera la tentative d'apologie de Pascal. Donc Pascal, progressivement, glisse de son activité de scientifique vers des préoccupations que nous on appellerait des préoccupations littéraires, morales, théologiques, philosophiques. Il en parle dans les pensées, dans un fragment comme celui qui porte le numéro 566 dans l'édition qui est mon édition de référence, celle de Philippe Sellier. J'avais passé longtemps dans l'étude des sciences abstraites et le peu de communication qu'on en peut avoir m'en avait dégoûté. Quand j'ai commencé l'étude de l'homme, j'ai vu que ces sciences abstraites ne sont pas propres à l'homme et que je m'égarais plus de ma condition en y pénétrant que les autres en l'ignorant. J'ai pardonné aux autres d'y peu savoir, mais j'ai cru trouver au moins bien des compagnons à l'étude de l'homme et que c'est le vrai étude qui lui est propre. J'ai été trompé. Il y a encore moins qu'il étudie que la géométrie. Ce n'est que manque de savoir étudier cela qu'on cherche le reste. J'arrête là ma citation. On est autorisé à penser que ce jeu, j'avais passé longtemps dans l'étude des sciences abstraites, et le jeu de Pascal, d'un Pascal qui nous confie qu'il est passé, véritablement, des sciences à ce qu'il appelle l'étude de l'homme. Et que les sciences le décevaient par leur côté étroit, abstrait, manquant de communication. Il pensait qu'avec l'étude de l'homme, il trouverait plus de monde. Et l'espèce de déception dont il fait part dans ce fragment 566, c'est la plus grande solitude qui est la sienne quand il étudie l'homme, et que si les gens qui l'entouraient précédemment se passionnaient pour les sciences, c'est parce que c'était une manière pour eux de ne pas étudier l'homme. Donc, la fin de la vie de Pascal, qui culmine avec ce texte que l'on connaît comme « Les pensées », est le choix délibéré de passer de ce qu'il appelle dans un autre texte de la science des choses extérieures à la science des mœurs, des comportements, qui, dit-il, me consolera toujours de l'ignorance des sciences extérieures. Alors je disais, dans les provinciales, Pascal a forgé ses convictions, a pris conscience d'un certain nombre de dysfonctionnements, et comme je disais que le respect du réel était pour lui essentiel, l'acceptation des dysfonctionnements du réel est absolument indispensable. Et c'est la première chose que je voudrais mettre en avant ici, comme conséquence de ce qu'on pourrait appeler l'éthos scientifique de Pascal, c'est l'acceptation du réel en tant que tel. Et j'en prendrai comme premier exemple une notion que tout le monde connaît comme étant d'origine pascalienne, que l'on dit souvent au sens pascalien du terme, c'est le divertissement. L'un des grands titres de gloire des élaborations conceptuelles de Pascal. Alors, sur le divertissement, on tient parfois un discours qui n'est pas tout à fait juste. Donc le divertissement, pour Pascal, c'est cette capacité qu'a l'homme de se détourner de l'important vers l'accessoire. Et on pourrait imaginer que le chrétien qu'est Pascal, le moraliste qu'il est devenu, le propagateur de la religion, on essaiera de trouver un meilleur terme tout à l'heure, est hostile au divertissement. Mais c'est faux. Pascal n'est pas fondamentalement hostile au divertissement. Certes, il pense que c'est une mauvaise chose de se divertir. Il pense que le divertissement détruit l'homme. Mais il ne s'agit pas pour lui de condamner le divertissement. Pourquoi ? Parce que le divertissement est extraordinairement efficace. Donc, ceux dont Pascal se moque dans les pensées, c'est ceux qui condamnent le divertissement. Par exemple, ceux que Pascal appelle les demi-habiles. Et je lis, fragment 134, dans l'alias Raison des effets, « Le peuple a les opinions très saines. Par exemple, d'avoir choisi le divertissement et la chasse plutôt que la prise. Les demi-savants s'en moquent et triomphent à montrer là-dessus la folie du monde. Mais par une raison qu'ils ne pénètrent pas, on a raison. On a raison de se divertir. Pourquoi ? Parce que le divertissement rend heureux. Même dans ses manifestations les plus délirantes. Alors Pascal prend l'exemple de quelqu'un qui a perdu son fils unique et qui se remet de ce deuil en jouant à la paume et en attendant le rebond d'une balle. Donc le moraliste va dire, mais quelle inconséquence, quelle absurdité. Enfin, qu'est-ce que c'est que cet homme vide, qui oublie ses tristesses les plus profondes en tapant dans une balle? Pascal dit, mais non, c'est très bien. Puisqu'il est heureux, il est heureux. S'il est heureux en se divertissant, on ne va pas dire qu'il n'est pas heureux en se divertissant. Et le même Pascal écrit dans le fragment qu'il porte dans l'édition Cellier, le numéro 33, « La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement. » Non mais, et c'est là, pour moi, je vois la marque du scientifique respectueux. De même que quand il voit le mercure descendre dans le tube de Torricelli à différents niveaux selon l'altitude, le scientifique ne va pas dire « le mercure se trompe ». C'est au scientifique de comprendre pourquoi le mercure se comporte différemment. Eh bien, Pascal, par définition, ne va pas dire « l'homme qui se divertit a tort de se divertir puisqu'il est heureux de se divertir ». Et donc je prends le grand texte, le grand fragment sur le divertissement, qui est le fragment 168, dans l'Alias qui porte le titre « Divertissement ». Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent, dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., j'ai souvent dit que, la phrase que tout le monde cite, j'ai souvent dit que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Et on prend cette phrase, très souvent, dans les citations que je vois faire, comme un des grands apports de Pascal à la recherche du bonheur sur cette terre. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Pascal continue, « Un homme qui a assez de biens pour vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place. » On achète une charge à l'armée si chère que parce qu'on trouverait insupportable de ne bouger de la ville. Et on ne recherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu'on ne peut demeurer chez soi avec plaisir, etc. Bon, cette explication, les hommes sont malheureux parce qu'ils ne peuvent pas demeurer en repos dans une chambre. Ça n'est pas l'explication de Pascal. C'est la première hypothèse qu'il formule. Enfin, ce qu'il appellera, dans quelques instants, la cause. Mais continue-t-il, quand j'ai pensé de plus près, parce que là, on ne pensait pas d'assez près, c'était une analyse sommaire, mais quand j'ai pensé de plus près, et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir la raison, j'ai trouvé qu'il y en a une bien effective qui consiste dans... Là, c'est un texte crucial, indépendamment même de la question du divertissement. Vous voyez, puisque les choses se passent ainsi, c'est qu'il y a sous-jacente une raison profonde, une logique essentielle qu'il s'agit d'analyser. Donc, il ne s'agit pas de dire, comme le demi-habile à l'homme, « Arrêtez de vous divertir, retournez dans votre chambre, demeurez en repos dans une chambre et vous trouverez le bonheur ». Ça, c'est le premier temps qui est insuffisant pour Pascal. Il s'agit de découvrir la raison. Pourquoi les hommes agissent ainsi? Car s'ils agissent ainsi, ils ont forcément raison d'agir ainsi. Sinon, ils ne le feraient pas. Si le divertissement rendait malheureux, les hommes ne se divertiraient pas. Donc, il faut comprendre. Et un peu plus loin, Pascal continue. Quand on leur reproche à ces hommes qui se divertissent, que ce qu'ils recherchent avec tant d'ardeur ne saurait les satisfaire. Par exemple, plusieurs exemples que prend Pascal, mais le cas du jeu. Quelqu'un joue des faibles sommes, Il ne veut pas jouer sans qu'il y ait d'argent. Il ne veut pas qu'on lui donne l'argent directement sans jouer. Qu'est-ce qu'il cherche vraiment alors? Puisque ça n'est pas le jeu lui-même, puisque ça n'est pas l'argent non plus, est-ce que ce comportement n'est pas absurde? Ou celui qui est à la chasse, qui veut absolument, qui ne voudrait pas de l'animal qu'il va tuer, mais qui ne voudrait pas non plus chasser s'il n'y avait pas un animal à la clé. Donc, aux gens qui accusent ce comportement d'incohérence, on pourrait répondre, ceux qui divertissent, et je reprends la citation de Pascal, s'ils répondaient comme ils devraient le faire, s'ils y pensaient bien, qu'ils ne recherchent en cela qu'une occupation violente et impétueuse qui les détourne de penser à soi, ils laisseraient leurs adversaires sans repartie. Mais, continue Pascal, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils ne savent pas que c'est la chasse et non pas la prise qu'ils recherchent. Et donc, quelle est la raison profonde du divertissement et en quoi le divertissement est intéressant pour Pascal? C'est qu'il traduit un instinct secret qui porte à la recherche du divertissement et de l'occupation au dehors. Donc, le divertissement nous dit beaucoup de choses sur la recherche du bonheur. Et je reviens à mon fil conducteur. Vous voyez, ici, c'est vraiment, pour Pascal, l'acceptation du réel qui fait la puissance de sa pensée. On ne va pas condamner dans un premier temps, on ne va pas vraiment condamner à aucun moment. Il s'agit de comprendre plus profondément. Il s'agit de passer d'une cause apparente à une raison des effets. Il y a quelque chose qui a l'air incohérent, que Pascal appelle un effet, est détenteur, en fait, d'une rationalité profonde qui lui donne raison. S'il y a une raison à l'effet, l'effet a raison d'être tel qu'il est. C'est ce que Pascal développe dans toute une série de pensées particulièrement abstraites et extraordinairement efficaces qu'il a réunies dans une liasse intitulée, après hésitation, « Raison des effets ». Un autre exemple de cette acceptation du réel, que je trouve très parlant, et qui cette fois est directement politique. Je disais tout à l'heure que l'expérience des provinciales avait fait prendre conscience à Pascal du soubassement politique des apparents débats intellectuels et spéculatifs. Donc c'est un autre développement dans les pensées, un texte très souvent étudié, très souvent commenté, 135, qui porte le titre « Justice, force ». On connaît trois textes de Pascal, on connaît celui-là. Il est juste que ce qui est juste soit suivi, il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. Premier constat. Là où les choses me paraissent vraiment décollées philosophiquement conceptuellement, c'est après. La justice sans force est contredite, parce qu'il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force. Et pour cela, faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit juste. On ne peut pas, soutient Pascal, rester dans ce système de disjonction entre le juste et le fort. Le fort lui-même a à perdre d'être en permanence accusé par le juste. Il faudrait donc réunir juste et force, justice et force. Comment s'y prendre? La réponse de Pascal est connue, mais ce qui m'intéresse ici, c'est les attendus de la réponse. Je lis la suite. La justice est sujette à dispute, la force est très reconnaissable et sans dispute. Ainsi, on a pu donner la force à la justice, parce que la force a contredit la justice, et a dit qu'elle était injuste, et a dit que c'était elle qui était juste. Et ainsi, nous pouvons faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. Je m'explique. La clé de la solution pascalienne est une clé extraordinairement simple, extraordinairement pratique. On a de puissance mal compatibles. Justice et force. Il faudrait donner l'impression, il faudrait faire que la justice obtienne de la force, ou au moins que la force passe pour juste. Il faut donner l'impression, faute de pouvoir donner la réalité, que les deux se réunissent. Or, malgré les apparents parallélismes de tout ce texte, il y a une différence structurelle, c'est que l'une des deux instances, la justice, est, dit Pascal, sujette à dispute. Et ça, c'est le terme essentiel, mais il faut bien comprendre. Que la justice soit sujette à dispute, ça ne veut pas du tout dire pour Pascal que la justice soit quelque chose de relatif. Ça ne veut pas dire qu'on peut discuter de ce que c'est que la justice. Pour Blaise Pascal, qui n'est absolument pas relativiste, la justice est quelque chose de parfaitement clair et défini dans son esprit. Par contre, on peut toujours dire à la justice qu'elle n'est pas juste. On peut toujours contredire la justice. Alors que la force ne rencontre pas le même problème. Parce que la force, dit Pascal, est reconnaissable et sans dispute. Si une force dit à une autre force qu'elle n'est pas la force, les deux forces se battront entre elles, se compareront, se confronteront, et la force la plus forte, celle qui détiendra le label de la force, l'emportera sur celle qui prétendait indûment être la force. Donc on saura toujours qui est fort. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que la force vaut mieux que la justice? Certainement pas. Ça n'est absolument pas un texte machiavélien. Ça n'est pas un texte qui donne raison à la force sur la justice. C'est un texte qui se contente de prendre acte du fait que le conflit est asymétrique. Que la justice, on peut faire semblant de ne pas la voir là où elle est, et que la force, on ne peut pas faire semblant. Donc, s'il y en a un qu'on doit tordre vers l'autre, il y en a un qui se laissera tordre, c'est la justice, et l'autre qui ne se laissera jamais tordre, c'est la force. Or, comme il est indispensable pour la paix civile, comme il est indispensable que les deux soient réunis, eh bien, la seule qui pourra être maniée, c'est la justice. Et là encore, je vois dans ce raisonnement, qui est un raisonnement, me semble-t-il, original et assez troublant, je ne vois pas une prise de position éminemment politique ou éminemment philosophique. Je vois d'abord le respect de l'ordre des choses. Car si l'on fait comme si la justice acceptait de perdre ses prérogatives au nom de la force, ou si on fait que la justice finira toujours par s'imposer, eh bien, on oublie quelque chose de tout à fait simple que Pascal rappelle dans le texte que je viens de lire, en disant que la justice est contredite, et parce qu'il y a toujours des méchants. La méchanceté est une donnée du réel. Et donc, si l'on ne fait pas avec la méchanceté, on se propose un monde qui est un monde factice, fictif, utopique, et qui est fatalement, malgré les apparences, un monde de malheur. Au même moment que Pascal achevait les provinciales, se produit un événement sur lequel on est bien en peine de s'exprimer, mais qui, de toute évidence, a bouleversé notre auteur. C'est un miracle qui s'est produit à Port-Royal, et dont la bénéficiaire était une petite fille, Marguerite Perrier, qui était à la fois la nièce et la filleule de Pascal. Donc, guérison miraculeuse d'une petite fille qui souffrait d'une fistule lacrymale qui avait atteint des proportions telles qu'elle était, pour ainsi dire, condamnée. Et ce miracle qui s'est produit à Port-Royal, par l'attouchement d'une relique de la Sainte Épine, c'est pour ça qu'on en parle comme du miracle de la Sainte Épine, le 24 mars 1656, ce miracle, qui ne faisait absolument aucun doute pour Pascal, a développé en lui une sorte d'exaltation religieuse, je ne devrais peut-être pas utiliser le mot d'exaltation, qui semblerait négatif, enfin de ravissement religieux, le sentiment qu'il fallait faire quelque chose pour la religion. Qu'il fallait, pour ainsi dire, rendre grâce avec les moyens qui étaient les siens, c'est-à-dire écrire pour la religion. Si je parle du miracle de la Sainte Épine, c'est que on ne sait pas comment désigner le travail dont Pascal s'était chargé pendant les quatre dernières années de sa vie, et celui dont il nous reste les pensées. L'habitude s'est prise aujourd'hui, depuis le XIXe siècle en fait, la chose est relativement récente, d'appeler le travail de Pascal une apologie. Pascal aurait écrit une apologie de la religion chrétienne. Alors, ce terme, qui est aujourd'hui tout à fait reçu, et on parle des pensées brouillons d'une apologie laissée inachevée à la mort de Pascal, ce texte pose beaucoup de problèmes. Bon, il pose un problème, disons, historique, c'est que Pascal n'utilise jamais le terme d'apologie, que personne ne l'utilise dans ce sens-là à l'époque de Pascal. On fait des apologies de personnes, on ne fait pas des apologies de mouvements, d'idées. Premier problème, ça à la limite, pourquoi pas. Et il pose un deuxième problème qui pour moi est plus gênant, c'est qu'il a été vraiment installé dans les mentalités par Victor Cousin au milieu du XIXe siècle et vraiment dans l'idée d'enlever l'autorité des pensées, hein, de montrer que ce texte qui nous paraissait doté d'une certaine intelligence était en fait un texte utilitaire, écrit pour la religion, et pour Victor Cousin, que Pascal ait écrit une apologie limite considérablement la portée du texte qu'il entendait écrire. Puis un dernier problème qui ne manque pas de me gêner, c'est qu'une apologie, personne ne sait ce que c'est exactement. Quoi, ça peut être des tas de choses. Et donc, dire que Pascal a écrit une apologie, c'est une façon prétendument savante de cesser de se demander ce qu'il a voulu faire. Donc, c'est aussi bien d'en rester à des formulations beaucoup plus modestes. Pascal a écrit un texte concernant la religion, ou comme selon le titre que je citais au début de mon propos, le titre des pensées, Pensées de M. Pascal sur la religion et quelques autres sujets. Il n'y a pas de doute que la question de la religion est une des questions traitées par Pascal. Et la chose est importante parce que si on ne fait pas attention, on risque de s'installer dans un mauvais cadre de pensée et une fois de plus de rater ce qui fait la puissance du texte de Pascal. Donc, Pascal ne cherche pas à convaincre un incroyant quelconque de la grandeur ou de la vérité de la religion chrétienne. Il ne cherche pas à convertir. Son texte ne cherche certainement pas à convertir. Pascal était un augustinien, on l'a compris. Donc, à son époque, être un augustinien, ça veut dire croire mordicus à l'efficacité de la grâce, à savoir que la grâce est le seul opérateur d'une conversion. Pascal lui-même a expérimenté dans la nuit de feu du 23 novembre 1654 et dans ce texte qu'on a conservé, ce texte tout à fait bouleversant qu'on connaît comme le mémorial, Pascal a conservé cette expérience de la grâce. Mais cette expérience de la grâce qu'il a lui-même vécue, il ne peut rien en léguer aux autres. Il ne peut pas donner la grâce, il ne peut pas faire que Dieu donne la grâce. Donc, première chose évidente, Pascal ne peut pas s'être donné comme objectif de convertir quiconque avec ses pensées. La chose qui doit nous frapper quand on considère les textes qu'il a laissés sur la question, c'est ce qui pourrait faire de son opération une sorte même d'anti-apologie. Non seulement il ne convertit pas l'incroyant, mais il aurait plutôt tendance à donner raison à l'incroyant. Et c'est probablement aussi une des causes qui fait que cet écrivain hyper religieux, éloigné de nous de 350 ans, ayant des références qui ne sont pas les nôtres, cet écrivain nous semble aussi, pour cette raison, capable de dialoguer avec nos propres préoccupations, c'est que son premier geste concernant la religion et de donner raison à l'incroyant, d'accepter que l'on ne voit pas Dieu. Quelque chose qui le rend particulièrement mécontent, il en donne quelques échos dans les pensées, c'est le type de discours qu'il pouvait trouver à son époque pour s'adresser aux incroyants. C'est un texte tout à fait savoureux que l'on trouve comme une amorce de préface à une seconde partie. Préface à une seconde partie. Seconde partie de quoi? On n'en sait rien. Hein. C'est le texte qui porte le numéro 644, qui commence de la façon suivante. Parler de ceux qui ont traité de cette matière. Cette matière, c'est les apologistes, c'est ceux qui voudraient prouver quelque chose aux incroyants. J'admire avec quelle hardiesse ces personnes entreprennent de parler de Dieu. En adressant leur discours aux impies, leur premier chapitre est de prouver la divinité par les ouvrages de la nature. Je ne m'étonnerai pas de leur entreprise s'ils adressaient leur discours aux fidèles, car il est certain que ceux qui ont la foi vive dans le cœur voient incontinent que tout ce qui est n'est autre chose que l'ouvrage de Dieu qu'ils adorent. Mais pour ceux en qui cette lumière est éteinte, ceux qui sont précisément des incroyants, dans lesquels on a dessein de la faire revivre, ces personnes destituées de la foi et de la grâce, qui recherchant de toute leur lumière tout ce qu'ils voient dans la nature qui les peut mener à cette connaissance, ne trouvent qu'obscurité et ténèbres, dire à ceux-là qu'ils n'ont qu'à voir la moindre des choses qui les environnent et qu'ils y verront Dieu, à découvert, et leur donner pour toute preuve de ce grand et important sujet le cours de la lune et des planètes et prétendre avoir achevé sa preuve avec un tel discours, c'est leur donner sujet de croire que les preuves de notre religion sont bien faibles. Et Pascal conclut, « Je vois par raison et par expérience que rien n'est plus propre à leur en faire naître le mépris. » Ce texte est important parce qu'il prend le contre-pied d'un certain discours qui était en vigueur à l'époque de Pascal, mais qui n'est pas non plus totalement, qui n'a pas totalement disparu aujourd'hui, qui consisterait à remonter de la création au créateur, à susciter une émotion esthétique en disant « Dieu est inscrit dans le monde, la beauté d'un coucher de soleil, une randonnée en montagne doit tourner notre cœur vers le Créateur et nous conduire à reconnaître le Créateur derrière la créature. » Dire des choses pareilles, pour Pascal, c'est non seulement inutile, non seulement ça n'a jamais converti personne, mais ça fait pire que ne pas convertir, ça suscite quelque chose qui pour Pascal est évident, c'est le mépris. Quand un incroyant entend ce type de raisonnement, il ne peut que mépriser les gens qui le tiennent et la religion au nom de laquelle on tient ce type de discours. Vous avez entendu ce que dit Pascal. Je vois par raison et par expérience. Par expérience, il se rend bien compte que les choses fonctionnent de cette façon-là, et par raison, ça lui paraît normal que les choses fonctionnent de cette façon-là. Et alors, je reviens toujours sur cette même idée. Pascal veut considérer l'incroyant pour ce qu'il est, et pas inventer une sorte de pseudo-incroyant qui aurait en lui déjà tous les moyens de croire, c'est-à-dire qui aurait cette sorte d'exaltation causée par la création dans laquelle il voit le Créateur. Non. Il dit très clairement que Dieu n'est pas visible. Une phrase qu'on a souvent commentée, qui est aussi une des phrases très célèbres de Pascal, c'est cette formule du fragment 233, « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. » Donc cette formule a fait couler beaucoup d'encre. Qui est censé tenir ce propos? Dans les pensées, on n'a que des notes. Il y a des textes plus développés, il y a des dialogues mieux amorcés. Là, c'est une bribe de dialogue. Quelqu'un qui parle, qui dit « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. » Alors, est-ce que c'est Pascal lui-même qui est effrayé? Est-ce que c'est le défenseur de la religion qui dit « je », qui parle d'un effroi? Est-ce qu'il enregistre l'effroi des personnes auxquelles il parle? Est-ce qu'il faudrait penser que c'est l'incroyant qui est effrayé par un silence éternel, des espaces infinis? Bon, le texte a suscité beaucoup de réflexions, de moqueries même. Il y a une variation sur une pensée de Paul Valéry qui explique que quand on est effrayé, on n'écrit pas des si beaux textes. Le texte est à prendre très au sérieux. Il faut bien comprendre qu'on se situe à ce moment-là, j'ai parlé de Galilée tout à l'heure, on se situe en plein cœur de la révolution copernicienne. Il y a qu'un moment où le monde n'est plus organisé autour de l'homme, autour de la Terre, ça n'est plus un cosmos, c'est-à-dire une entité organisée et harmonieuse, c'est un univers infini, silencieux. Le cosmos n'était pas silencieux, le cosmos des Grecs, de par l'harmonie de tous ses rapports, suscitait une musique. Donc même si cette musique, on ne l'entendait pas, c'était un monde qui était harmonieux au sens musical même du terme. Alors que le monde de Pascal est un monde vide, infini, éternellement vide, dans lequel Dieu est absent. C'est un monde qui est donc apte à susciter de l'effroi. Le silence éternel des espaces infinis m'effraie. Et donc, de même qu'il y a eu une sorte de révolution copernicienne dont parlait Kant, et bien de la même manière, on pourrait parler, et on l'a fait, d'une révolution copernicienne de l'apologétique. C'est-à-dire que Pascal ne commence pas par dire à l'homme « Vous êtes malhonnête, vous ne croyez pas, vous ne voyez pas Dieu, mais Dieu est là, regardez mieux, perdez vos préjugés, et vous prendrez vous-même conscience le premier de la réalité de Dieu. » Pascal part de l'idée que Dieu n'est pas visible dans le monde. Dieu est caché. Et si Dieu est caché, c'est précisément parce qu'il s'agit d'une vérité qui demande à être cherchée, et c'est donc la qualité de la recherche qui importe plus que les arguments eux-mêmes qui pourraient conduire à cette vérité et qui, en conduisant à cette vérité, détruiraient la recherche. Donc, toute religion qui ne dit pas que Dieu est caché est pour Pascal une religion qui relève de l'imposture. La religion doit enregistrer cette absence de Dieu. C'est-à-dire que la pensée religieuse de Pascal, que je refuse de présenter comme une apologie, la pensée religieuse de Pascal est une méditation sur l'absence de Dieu et ce que l'on va pouvoir tirer de cette absence. Alors, comment procède Pascal? Puisque le monde est vide, Dieu est absent, donc deuxième grand acte, le premier acte étant d'accepter l'absence, d'accepter scientifiquement, d'accepter honnêtement les choses telles qu'elles sont. Le deuxième acte, c'est de retourner l'homme vers soi. C'est-à-dire de faire une apologie, j'emploie le terme, mais je n'arrive pas à m'empêcher de l'employer tellement il est passé dans les mœurs, de faire un discours sur Dieu qui sera en fait au départ un discours sur l'homme. C'est-à-dire que si l'homme peut être conduit à une recherche de Dieu, c'est dans une considération déterminée de lui-même. Et on pourrait citer un texte qui a été très souvent exploité, 40 dans l'édition Cellier, qui est dans un passage de l'œuvre où Pascal envisage un certain nombre d'ordres possibles. Et il a cette proposition de texte en deux parties. Première partie, misère de l'homme sans Dieu. Deuxième partie, félicité de l'homme avec Dieu. Un texte de Pascal dont on a tiré beaucoup de conclusions que je trouve dommageables. Je vais dire tout à l'heure lesquelles. Mais c'est un texte de Pascal, il n'y a pas de doute. Misère de l'homme sans Dieu, félicité de l'homme avec Dieu. Mais ce texte est immédiatement suivi, dans le brouillon qu'a laissé Pascal, suivi d'une réénonciation. Autrement. Donc ces deux parties, on pourrait les intituler d'une autre manière. Autrement, que la nature est corrompue par la nature même, première partie, et deuxième partie, qu'il y a un réparateur par l'écriture. Le discours de Pascal va accorder une énorme importance à l'écriture sainte, dans un deuxième temps. Donc on voit bien que la deuxième partie va être axée sur un examen de l'écriture. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la première partie. Que la nature est corrompue par la nature même. Phrase très étrange. De quelle nature s'agit-il ? Évidemment, ça n'est plus la nature dont on parlait tout à l'heure dans la préface de la seconde partie. C'est pas chercher Dieu dans les couchers de soleil. C'est chercher Dieu dans la nature humaine. Donc, que la nature est corrompue par la nature même, c'est-à-dire montrer à l'homme qu'un examen rigoureux de lui-même montrera une corruption. C'est-à-dire qu'on peut mener cette recherche de Dieu par un examen de l'homme. Donc, deuxième mutation du discours religieux de Pascal, c'est fonder son discours strictement sur une anthropologie, sur une considération de l'homme. Et ça nous amène à un point connexe et extrêmement important. Qu'est-ce que c'est que cette corruption ? Que veut dire la corruption ? Et je voudrais ébranler ici un réflexe qui est un peu celui que nous a légué Chateaubriand, que je citais au début de mon propos, cet effrayant génie, hein, Pascal. On pourrait penser aussi à un autre jugement très célèbre, fait à la fois de fascination et d'inquiétude, c'est celui de Voltaire dans les Lettres anglaises, demandant à prendre le parti de l'humanité contre ce misanthrope sublime. Donc un Pascal effrayant, un Pascal misanthrope, qui nous partage entre la beauté de ses écrits, la puissance de sa plume, et puis l'effroi, le malaise. Donc un Pascal sinistre, un Pascal que l'on aime d'autant plus qu'il est sinistre, mais qui nous effraie évidemment à cause de son sinistre. Voilà. Dans cette présentation, qui ferait de Pascal une sorte de représentant de l'existentialisme chrétien, un des grands représentants d'un accès existentiel au christianisme, cet existentialisme est fondé sur l'examen intérieur d'un propre désastre. Et c'est donc la vie de ce désastre qui doit nous conduire à Dieu. Chateaubriand, à un autre endroit, c'est pas dans le génie du christianisme, c'est dans un autre texte, c'est dans la vie de Rancé. Chateaubriand écrit quelque chose qui me paraît extraordinairement faux. Le terrible Pascal, hanté par son esprit géométrique, doutait sans cesse. Il ne se tira de son malheur qu'en se précipitant dans la foi. Bon, c'est beau comme du Chateaubriand, mais je crois que c'est non seulement faux, mais c'est dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est avec un texte comme ça qu'on risque de manquer tout Pascal. Et malheureusement, je me rends compte à l'expérience que c'est souvent comme ça qu'on entre dans Pascal. Parce que ces textes effrayants sont tellement beaux, sont tellement séduisants, qu'on a presque envie d'être effrayé par Pascal. Donc les deux infinis, y compris cette variation sur une pensée que Valéry admire tout en la réprouvant. Donc je relis le passage de Chateaubriand avant de lui faire un sort. Le terrible Pascal, terrible, terrible parce que lié à la terreur. Le terrible Pascal, hanté par son esprit géométrique, doutait sans cesse. Or, si je comprends bien ce que veut nous dire Chateaubriand, d'abord, c'est que Pascal va nous hanter lui-même parce qu'il était hanté, c'est une histoire de fantôme, Pascal vivait avec ses propres fantômes et il cherche à nous transmettre ses fantômes. Et en fait, son fantôme serait son esprit géométrique. C'est un savant qui ne se résigne pas à rester dans l'incertitude et donc qui serait acculé au doute. Ce doute étant, pour ainsi dire, son malheur. Et Chateaubriand conclut, il ne se tira de son malheur qu'en se précipitant dans la foi. Donc, si je résume, Pascal grandiose, Pascal terrible, Pascal sinistre, Pascal incapable de sortir de l'incertitude, du doute, et donc faisant appel à la foi comme une sorte de remède qui lui épargne le malheur. Donc avec une pensée comme celle-là, on construira facilement un Pascal en deux parties, des pensées en deux parties, c'est-à-dire une pensée ouverte à nous tous, croyant comme un croyant, une partie anthropologique, où Pascal examine, pour reprendre le titre hein, qu'avait emprunté Malraux, la condition humaine. Donc regarde sans aucune faiblesse ce qu'est la condition humaine, ce qu'elle est la place de la justice, comment on accorde la justice et la force. Donc une partie de moraliste, une partie passionnante, et puis une deuxième partie dont on fera ou on ne fera pas l'économie selon son propre tropisme, une partie religieuse, pour ceux qui seront restés, qui seront trop affectés par la première partie, ceux qui seront trop malheureux, ceux qui ne sont pas nietzschéens, hein, ceux qui ne sont pas capables de vivre avec leur malheur, eh bien ils auront qu'à lire la deuxième partie, ils auront qu'à lire la félicité de l'homme avec Dieu. Ils auront eu la misère de l'homme sans Dieu, c'est très beau, c'est très triste, mais c'est très beau. Il leur restera maintenant la félicité de l'homme avec Dieu. Et si vous êtes nietzschéen, vous vous en tiendrez à la première partie. C'est totalement faux. C'est totalement faux et c'est totalement pauvre. Alors, ça manque le geste profond de Pascal et ça me ramène à mon texte 40, que la nature est corrompue par la nature même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, corrompu ? Ça veut dire qu'il y a en l'homme une certaine dégradation. Il y a une perte. Mais voir qu'il y a de la perte, c'est voir qu'il y a de la grandeur. Car pour perdre, il faut avoir et n'avoir pas. C'est une formule de Pascal. Pour savoir qu'on a perdu, il faut avoir et n'avoir pas. Quiconque a perdu manifeste par là même une richesse. Si vous dites « j'ai perdu ma Rolex », vous dites aussi « j'ai eu une Rolex ». Quelqu'un qui n'a jamais eu de Rolex n'a jamais perdu de Rolex. Donc, montrer une corruption de l'homme, une perte de l'homme, c'est montrer une grandeur de l'homme. Et j'arrive au but de mon propos. Ce qui fait la puissance de l'anthropologie pascalienne, c'est la création d'un homme qui est à la fois grand et misérable. C'est la coexistence de cette grandeur et de cette misère au niveau anthropologique qui va rendre le raisonnement de Pascal puissant. C'est-à-dire qu'il s'agit de rendre compte de la grandeur comme de la misère. Ce qui importe à Pascal, c'est de faire de l'homme, pour ainsi dire, un monstre. Un monstre au sens du XVIIe, c'est-à-dire pas un monstre au sens de quelqu'un qui nous donnerait des frissons, mais un monstre qui mettrait en défaut toutes nos capacités rationnelles. Dans un ensemble de pensées que Pascal intitulé « Contrariété », il développe ce texte, cette idée tout à fait réjouissante dans sa brutalité. S'il se vante, je l'abaisse. S'il s'abaisse, je le vante et le contredit toujours jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est un monstre incompréhensible. Donc, pensée frappée au coin du paradoxe, hein, faire comprendre à l'homme qu'il est incompréhensible par le maniement d'une contradiction permanente. Quoi que vous disiez, dit Pascal tranquillement, je dirais le contraire. Si vous me montrez de la misère, je vous montrerai de la grandeur. Si vous me montrez de la grandeur, je vous montrerai de la misère. Car, et c'est à cela que je veux en venir, la grandeur est absolument indispensable dans le projet anthropologique de Pascal. S'il n'y avait pas de grandeur, on serait dans un autre projet, on serait dans une espèce de d'ébranlement par la consternation qui conduirait un homme éperdu à se tourner en désespoir de cause vers une solution religieuse, mais qui serait une solution religieuse qui relève de l'opium. Hein? Or, ce n'est pas ça du tout que veut faire Pascal. Pascal veut montrer qu'il y a tellement de grandeur en l'homme que il y a besoin d'un principe d'explication de la coexistence de cette grandeur et cette misère. Donc, quand Pascal parle de misère de l'homme, il parle toujours en même temps de grandeur de l'homme. Car la misère spécifique de l'homme est une misère qui laisse percevoir sa grandeur. Et il lui importe de voir aussi comment cet homme qui a perdu la référence divine est quand même capable d'organiser une cité qui fonctionne d'une manière impressionnante. Grandeur de l'homme, par exemple, c'est une citation de Pascal, d'avoir tiré de la concupiscence un si bel ordre. Voilà. Donc, quel est le propos, pour conclure, quel est le propos, quel est le chemin religieux auquel engage Pascal? On a dit qu'il ne s'agissait pas de prouver l'existence de Dieu, évidemment. Il ne s'agit pas de convertir. Il ne s'agit pas de donner des arguments métaphysiques. Multiples sont les textes de Pascal. Où l'auteur se moque de ses beaux raisonnements, de ses preuves ontologiques qui, à la limite, peuvent vous convaincre pendant quelques secondes et qui, à peine sont-elles terminées, ont cessé de vous parler. Donc, que s'agit-il de faire? Il s'agit de mettre l'homme devant la possibilité ou non d'une recherche. Le mettre en chemin ou lui faire énoncer précisément son refus de se mettre en chemin. Un texte qu'il faudrait évoquer, c'est un texte qui est au tout début des Pensées, dans l'Alias Ordre, qui est une sorte de projet, peut-être le projet le plus juste pour rendre compte de l'intention de Pascal. C'est le fragment 46, il s'intitule Ordre. Bon, je n'ai pas parlé de tous les aspects philologiques passionnants des papiers de Pascal. Alors là, il y en a un que je ne peux pas m'empêcher d'évoquer. Pascal avait commencé à intituler son texte Division. Il avait écrit le début de Division et après il raye rageusement Divi pour mettre à la place Ordre. Car le principe aussi de Pascal, qu'il ne s'agit pas de produire un ouvrage argumenté, un ouvrage réglé, un ouvrage disposé comme il faut, hein, de faire comme les divisions de Charon qui attristent et ennuient. Il s'agit d'édifier un ordre. Et Pascal écrit: les hommes ont mépris pour la religion, ils en ont haine et peur qu'elle soit vraie. Pour guérir cela, il faut commencer par montrer que la religion n'est point contraire à la raison, vénérable, en donner respect. La rendre aimable ensuite, faire souhaiter au bon qu'elle fût vraie, et puis montrer qu'elle est vraie. Le texte est très important, et je m'arrêterai sur ce texte-là, je conclurai sur ce texte, pour deux raisons. D'abord, oui, il s'agit d'une pensée en deux temps, un temps plus spéculatif, un temps plus projectif, temps spéculatif. D'abord, une sorte de diagnostic. Les hommes ont mépris pour la religion. Ils en ont haine et peur qu'elle soit vraie. On est frappé, 1660, 61, à peu près, ce texte. Donc, pourrait le prononcer exactement à l'identique aujourd'hui. Donc, face à la religion, un mélange de peur et de mépris, qui, je pense, en tout cas, chez beaucoup de gens, est présent. Les religions font peur, elles entraînent de la violence, elles entraînent du conflit, et en plus, elles font pitié. cette espèce de reste archaïque d'une pensée magique dont on pouvait penser, depuis Auguste Comte et depuis Marx et depuis bien des gens, que le progrès aurait raison. Eh bien non. Donc, on est partagé entre un mépris intellectuel et une inquiétude devant la religion. Donc, Pascal dit qu'il y a deux choses à faire de ce point de vue-là, donc deux actions. La première, c'est celle dont j'ai un tout petit peu parlé, eh bien, c'est montrer qu'elle n'est point contraire à la raison. Montrer qu'il y a une possibilité d'admirer le travail spéculatif de la religion. Et à la fin du texte que je citais, elle est vénérable parce qu'elle a bien connu l'homme. Il y aurait, pour Pascal, une capacité à mieux comprendre l'homme à travers les propositions que la religion, et quand il dit religion, il pense à la religion chrétienne, nous donne. Ce n'est pas pour autant qu'elle est vraie. Ce n'est pas pour autant qu'on va se convertir à elle. Hein. Et deuxième chose, une fois qu'on a cessé de la mépriser, qu'on pourra la respecter puisqu'elle est détentrice d'une intelligence, deuxième chose, on peut la rendre aimable. Faire souhaiter au bon qu'elle fût vraie. C'est le dernier temps. Encore une fois, ça ne va pas la rendre vraie pour autant. Et ça ne va convertir personne. Mais, au lieu d'avoir peur d'elle, réussir à percevoir que sa promesse, la promesse du vrai bien, sa promesse de bonheur, n'est pas une mauvaise promesse. En fait, une promesse qui serait digne qu'on l'espère. Alors évidemment, ce n'est pas parce qu'on espère en quelque chose que cette chose est. Mais dans le texte, ce sera ma dernière remarque, pour la rendre aimable, il faudrait faire souhaiter au bon qu'elle fût vraie. Faire souhaiter au bon qu'elle fût vraie, ça veut dire qu'il y a des personnes qui pourront souhaiter la vérité de la religion chrétienne et d'autres qui ne pourront pas souhaiter la vérité de la religion chrétienne. Le travail de Pascal s'arrêtera là. Il ne pourra ni les convertir, ni les convaincre de quoi que ce soit. Mais il y a derrière, et c'est une idée qui me tient à cœur et qui, à mon avis, mérite d'être mise en relief, il y a l'idée que l'on vaut par son espérance. Et que quelqu'un qui n'espère rien risque fort d'être exaucé et d'obtenir précisément ce qu'il espérait, à savoir rien. Et c'est, à mon avis, le sens profond d'un texte très célèbre et que je crois lu maladroitement, qui est le texte du Paris. Car le texte du Paris n'est pas un texte qui incite à parier pour Dieu en l'absence de toute connaissance, c'est un texte qui incite à ne pas sortir d'un jeu qui était en train de se dérouler, à ne pas abandonner l'espoir d'une promesse à laquelle on pourrait être tenté de ne plus croire. Ce texte, un texte à soubassement mathématique, que Pascal a construit à partir de la règle des parties, c'est-à-dire de la correspondance qu'il avait eue avec Fermat à propos d'une question qui était celle de l'interruption du jeu. Quand on interrompt un jeu de hasard, comment répartir les mises? Pascal, le mathématicien, répondait au chevalier de Méré qui lui avait posé la question et il trouvait un biais géométrique, mathématique, pour répartir les mises en fonction de l'état du jeu de hasard, du jeu pleinement aléatoire, au moment où la rupture se fait. Eh bien, c'est la même question qui se pose avec le texte que l'on appelle le pari. Mais Pascal ne l'a jamais appelé le pari, hein, il l'appelle le fragment infini rien. Et à d'autres moments, il le désigne en intitulant le discours de la machine. Qu'est-ce qui se passe si j'arrête ce jeu? Qu'est-ce que j'aurai si j'arrête ce jeu? Vous voyez, plutôt qu'être un texte qui demande aux gens de parier pour Dieu, il leur demande de réfléchir à leur espérance. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Et si vous arrêtez ce jeu, qu'est-ce que vous obtiendrez? Pascal, là il faudrait reprendre ce que je ne vais pas faire ici, le raisonnement complet du pari, où Pascal conclut, d'une formule qui serait incompréhensible si on ne la mettait pas en rapport avec les textes mathématiques, cela ôte tout parti. C'est-à-dire que si vous arrêtez le jeu, vous obtiendrez, en l'échange d'un infini qui vous était, d'un infini qui n'est pas certain, qui vous était promis, vous obtiendrez une certitude. C'est la certitude du néant. Vous obtiendrez le néant. Donc vous pouvez vouloir le néant et chercher le néant. Et donc pour ceux qui souhaitent le néant, le refus de la religion s'impose. Mais ceux qui souhaitent le néant ne sont pas ceux que Pascal appelle les bons. Et donc il y a une sorte d'espoir, et c'est ça que Pascal voudrait essayer de développer dans cet écrit qu'il n'a pas intitulé, dont on ne connaît pas le titre, qu'il n'a pas terminé. Il y a une espèce de chemin vers une recherche du bonheur dont Pascal pense qu'il ne peut se trouver que dans une perspective religieuse qu'il est lui-même totalement incapable de transmettre à qui que ce soit.